VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 17h en temps universel, 18h à Bangui. Les autorités camerounaises ont évacué au moins 200 blessés après le double attentat suicide d'hier à Kerawa, la ville frontalière avec le Nigeria dans l'extrême nord du Cameroun, une région en proie aux attaques des islamistes nigériens de Boko Haram. Un dernier bilan fait état de 20 à 40 morts, Jacques Aristide.
Les blessés ont été transférés vers les hôpitaux des villes voisines car l'unique établissement de santé de Kerawa ne pouvait pas les accommoder. Le porte-parole du gouvernement camerounais, Issa Chiroma Bakari, ministre de la communication.
Une jeune dame qui portait donc la bombe l'a détonée au marché du mil et des arachides. Malheureusement, nos compatriotes ont perdu la vie. Beaucoup d'autres ont été blessés. Au moment où les autres cherchaient donc à se mettre à l'abri, fuyaient dans cette zone d'attaque, c'est le moment donc mis à profit par un autre attaquant qui portait donc la bombe, qui l'a détonée. Et là également, malheureusement, beaucoup de nos compatriotes sont tombés. Au total, nous déplorons, à l'heure où je vous parle, nous déplorons une vingtaine de morts et 145 personnes ont été blessées.
5 attentats suicides attribués à Boko Haram ont frappé la même région au cours du mois de juillet, faisant une cinquantaine de morts. Le Cameroun est engagé dans une coalition régionale contre Boko Haram aux côtés du Nigeria, du Tchad, du Niger et du Bénin.
Moussaga, un quartier au sud de Bujumbura au Burundi, était toujours ce vendredi matin bouclé par des policiers et militaires. Hier soir, un policier aurait été tué et deux jeunes blessés entre deux avenues où des tirs nourris étaient entendus. Ce quartier est parmi ceux qui ont manifesté depuis avril dernier contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Ce bouclage est fait au lendemain de la conférence de presse de quatre ministres qui ont donné un ultimatum de 3 semaines à la population pour remettre les armes qui grondent certaines nuits dans la capitale burundaise. Le point tout de suite avec notre correspondant Christophe Nkurunziza.
Le quartier Moussaga était encerclé ce matin par les forces de l'ordre et des militaires. Ces derniers étaient postés à chaque avenue, interdisant la population d'aller et de sortir. Les boutiques, marchés étaient inaccessibles pour les habitants de cette localité. Fer de lance depuis avril dernier des manifestations anti-troisième mandat de l'actuel président Pierre Nkurunziza. Jeudi soir, vers 19h, un policier qui était de garde près d'un cabaret a été attaqué à la grenade. Il aurait succombé à ses blessures et les autres militaires ont alors tiré à l'aveuglette, blessant 2 personnes, selon les habitants de Moussaga. Les 4 ministres de l'Intérieur, de la Défense nationale, de la Sécurité publique et de la Justice, en compagnie du nouveau maire de la ville, se sont rendus ce matin dans plusieurs quartiers contestataires pour tranquilliser et demander également aux habitants de remettre les armes qui ne font que causer de la violence. Signalons que la police indique que les 52 jeunes arrêtés hier soir ont été relâchés ce matin pour détendre une situation qui était tendue depuis plusieurs jours. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En Centrafrique, de plus en plus de voix s'élèvent au sein de la classe politique et de la société civile pour réclamer le report des élections législatives et présidentielles dont le retour est prévu le 18 octobre prochain. Les raisons invoquées sont liées aux difficultés du démantèlement électoral, du démembrement électoral et surtout à l'insécurité encore manifeste dans certaines régions du centre-est du pays. Pour le gouvernement, la balle est dans le camp de l'autorité nationale des élections. Dominique Saïd Pagenji est le porte-parole du gouvernement.
Visiblement, ce chronogramme ne peut pas être respecté pour la simple raison que certaines opérations ont accusé un léger retard. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans la dynamique donc d'une révision de ce chronogramme par l'autorité nationale des élections.
Justement, en ce moment, de plus en plus de voix s'élèvent pour demander le report de ces élections-là. Et puis hier, vous avez dit que la balle est dans le camp de l'ANE. Qu'est-ce que vous en dites?
C'est vrai, comme je l'avais affirmé, on va avoir un léger glissement de quelques jours, mais qui ne va pas remettre en cause tout le processus électoral. Donc on va aller aux élections, et comme j'ai eu à le dire, dans la durée de la transition telle que prorogée par la conférence des chefs d'État donc de la CEAC.
Dominique Saïd Pagenji, le porte-parole du gouvernement centrafricain, joint à Bangui par Félix Yepassis Zembrou.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Et maintenant, le dossier de ce journal. Ce vendredi 4 septembre 2015, le président de la République du Mali a 2 ans au pouvoir. Ibrahim Boubacar Keïta a été élu à la suite de la présidentielle de 2013. 2 ans après, les Maliens sont entre le doute et le désespoir. L'accord pour la paix signé tarde à être mis en application. Les attaques terroristes et djihadistes augmentent dans le pays. Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako, a donné la parole aux Maliens sur les 2 ans du président Ibeka.
C'est le 4 septembre 2013 que le président de la République du Mali a été investi à la magistrature suprême du Mali, héritant d'un pays qui sortait d'une triple crise institutionnelle, sécuritaire et socio-économique. 2 ans après l'arrivée d'Ibeka à Koulouba, comment se présente la situation, docteur Oumou Keïta?
2 années très dures, très dures, comme on peut le dire. Tout le monde le sent. Économiquement, rien ne va. Les gens n'arrivent plus à subvenir aux besoins minimum de leur famille. Et en un mot, c'est la mauvaise gouvernance. Pendant ces 2 ans, bon, même si c'est trop tôt, on n'a pas eu de satisfaction. Et on ne voit même pas de lueur. S'il ne fait pas attention, les Maliens sont en train de perdre espoir sur son cas.
Beaucoup de Maliens gardent espoir, sans quoi les promesses présidentielles tardent à se concrétiser, comme nous l'explique Salia Cissé, jeune chômeur.
Jeune diplômé sans emploi, on nous a promis beaucoup de choses. Jusqu'à présent, on ne sent rien. Parce que déjà, quand le président est élu, il a trouvé que le pays n'était pas aussi stable. Bon, sur ces procédures-là, on voit que ça va de plus en plus parce qu'il y a eu des signatures, des accords, ça reste l'application des accords. Donc on reste optimiste.
Les Maliens sont pressés de voir les choses se réaliser. Pour ces fonctionnaires, cela n'est pas possible car le pays n'était pas dans la stabilité. Madi Diabaté, fonctionnaire.
Il est venu dans un état où le Mali avait des difficultés. Et pendant tout le temps qu'il est là, ces difficultés n'ont pas été anéanties. De deux, que ce soit l'AMUNISMA ou que ce soit l'État français, qui est notre partenaire de tout le temps, il y a un manque de confiance qui semble exister, en tout cas dans l'appréciation des uns et des autres. Sont-ils là réellement pour nous aider ou sont-ils là pour d'autres buts que nous ne saurons connaître de vie?
Force est de reconnaître que la situation de défense et de sécurité n'est pas rassurante au Mali. Chaque jour, constituant son lieu de victimes civiles comme militaires. Madi Diabaté.
Qu'on n'ait pas l'impression d'être lié à l'AMUNISMA ou à la France ou autre pays pour notre sécurité. La sauvegarde de notre sécurité, notre défense est une valeur intrinsèque qui dépend de notre armée. Et qu'on ne soit pas tout le temps en train de déplorer ce qui se passe. Tous les jours, tu apprends un Malien est mort. Un soldat est tombé en embuscade. Est-ce que sur le front, on doit être surpris?
Les 2 ans d'Ibeka au Mali, c'est aussi l'impunité, la corruption et la mauvaise gouvernance. Pour les 3 ans à venir, le président malien doit changer le fusil d'épaule s'il veut donner aux Maliens leur dignité et leur honneur comme il l'a tant chanté. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Nigeria, l'insurrection des islamistes de Boko Haram a fait plus de 2,1 millions de déplacés en 6 ans, a rapporté aujourd'hui l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Un chiffre en forte hausse par rapport aux 1,5 million recensés jusque-là. L'augmentation a été provoquée par le récent regain des attaques des insurgés, a expliqué l'OIM. Crise des migrants en Europe, l'ONU a plaidé auprès de l'Union européenne pour l'admission de 200 000 demandeurs d'asile. Le Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR, milite pour un programme de réinstallation de masse afin d'aider le flot des migrants. Félicie Passis-Zembrou.
Antonio Guterres a demandé de mettre en œuvre un programme qui obligerait tous les États de l'Union européenne à venir en aide aux réfugiés qui ont une raison légitime de solliciter une protection. Si l'Union européenne reste divisée sur la question, a ajouté le patron du HCR, la crise ne profitera qu'aux passeurs et aux trafiquants. Le Premier ministre britannique, David Cameron, a fait savoir que la Grande-Bretagne est prête à recevoir des milliers d'autres ressortissants de la Syrie, en plus des 5 000 déjà acceptés. Un incident signalé ce vendredi à Bishkek, en Hongrie. Des centaines de réfugiés ont refusé de descendre d'un train à destination de l'Allemagne, qui a étendu à 800 000 sa capacité d'accueil des migrants. Les passagers du train refusaient notamment de se faire recenser et parquer dans des camps en violation de la loi hongroise. Par ailleurs, 300 migrants ont mis à sac un camp d'accueil à Roski, près de la frontière serbe, selon les autorités hongroises.
Et le vice-président américain Joe Biden a confié hier soir qu'il n'avait pas encore décidé s'il allait tenter de conquérir la Maison-Blanche en 2016 en se présentant aux prochaines élections présidentielles aux États-Unis, n'étant pas sûr de pouvoir affronter une campagne si tôt après le décès de son fils. Fin de ce journal, mais dans 20 minutes, de nouvelles infos sur VOA Afrique avec Le Monde Aujourd'hui.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.